Les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans Les héroïnes et joyeux mois des fiertés à toutes et tous. Alors après plusieurs émissions en solo, j'ai la joie de réaccueillir ma complice, mon acolyte préférée. Bonjour Marine Combe.
Bonjour.
Marine, vous êtes fondatrice et rédactrice en chef du magazine féministe rennais YEG, que l'on peut lire sur yegmag.fr. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, oh oui. Marine. Je vais commencer. Alors figurez-vous, ma chère Marine, qu'il y a eu un dysfonctionnement. On a appris que le viol et le meurtre d'une enfant de 11 ans par un pédocriminel multirécidiviste, ça s'appelait un dysfonctionnement. Nous, on appelle ça un scandale d'État, un bon gros scandale d'État par manque de volonté politique. Un bon gros scandale d'État dont on connaît les responsables et dans lequel, encore une fois, les hommes jouent de leur pouvoir de domination des corps des enfants, des petites filles, des petits garçons et des corps des femmes et se protègent entre eux. Mais non, eux, les responsables, qui tentent de se dédouaner comme toujours, parlent de dysfonctionnement. Et quand on crie d'effroi, de colère, de désarroi, de tristesse, les mêmes, les responsables et surtout le premier d'entre eux, viennent nous dire que ça ne sert à rien de crier. Mais qui aurait pu prédire qu'on se mette à crier devant tant d'injustices, de lâcheté et de complaisance avec les violeurs et les pédocriminels? Waouh, quelle toupée quand même! Ils ne doutent vraiment de rien, ils sont nés avant la honte, parce que voilà 10 ans qu'on alerte, qu'on compte nos morts et nos mortes, qu'on dénonce l'impunité des pédocriminels, à l'encontre des pédocriminels, des agresseurs, des serial violeurs, et on vient nous dire, avec beaucoup de mépris, toujours, qu'il ne faut pas crier. Wow. Eh, déjà qu'on était des sales connes, si en plus maintenant on est des sales connes hystériques, c'est plus du mépris et de l'indécence là. C'est un énorme foutage de gueule. Et en même temps, fallait s'y attendre. Que pouvions-nous espérer d'un président de la République qui a décidé de poser bien en évidence le livre d'un pédocriminel notoire, pire, d'un pédocriminel revendiqué, André Gide, sur la photo de son portrait officiel qui depuis trône dans toutes les mairies. Que pouvions-nous attendre et espérer d'un président de la République qui distingue bien l'homme de l'artiste en défendant un acteur agresseur et violeur en affirmant qu'il rend fier la France? Que pouvions-nous attendre et espérer d'un président de la République qui a eu comme ministre de la Justice un avocat misogyne phallocrate, un avocat qui a défendu les pires agresseurs, des proxénètes, des violeurs, un avocat qui évoque ses origines italiennes pour revendiquer son machisme et qu'en tant que franco-italien, sa latinité lui a permis quelques incartades avec les femmes quand il était jeune. Un ministre de la Justice anti-MeToo, opposé à l'outrage sexiste et qui traite les féministes de, je cite, « folasses qui racontent des conneries ». Qui déclare aussi que, deux points ouvrez les guillemets, l'emprise, ça existe, mais il y a aussi des femmes que le pouvoir fait bander. La starlette qui va voir un producteur célèbre et lui dit « Je veux être star !» et l'autre qui lui répond « D'accord, mais tu couches ?» Si elle couche, ce n'est pas un viol, c'est une promotion canapé. Fermez les guillemets. Et peu importe que la starlette soit mineure et que le producteur célèbre soit Harvey Weinstein. Que pouvions-nous attendre et espérer quand au compte public, à l'intérieur et maintenant à la justice, on a un autre ministre, alors lui, il est homophobe, anti-mariage pour tous, repris de justice, accusé de corruption sexuelle pour avoir joué de son influence pour obtenir des faveurs sexuelles, un ministre accusé de viol et de harcèlement avec lequel le président de la République dit fièrement et avec aplomb s'être entretenu d'homme à homme. Un ministre qui fait de la politique politicienne et des effets d'annonce et qui ne pense qu'à une seule chose, les prochaines présidentielles, et se soucie plus des répercussions de l'affaire Liana sur sa candidature que du sort des enfants violés et assassinés, et dont la priorité du moment est de s'acharner sur la journaliste de Disclose, Ariane Lavrieux, laquelle a dénoncé un autre scandale d'État, celui de l'implication de l'État français dans une opération militaire secrète en Égypte, car Ariane Lavrieux, aux yeux de Gérald Darmanin, est bien plus dangereuse que les pédocriminels Barella, Le Squarneck, Le Landais, Louvain, Morandini, Matzneff, Fournirait, pour ne citer que. Que pouvions-nous attendre et espérer d'un président de la République qui a déclaré il y a un an dans la presse britannique ne pas aimer les adolescents et adolescentes, ne pas les comprendre ? Non mais quand on est chef de tout le monde, on dit pas ça. Bon, au moins là, on sait qu'on a un président un peu honnête et on comprend donc pourquoi, depuis son arrivée à l'Élysée en 2017, la protection de l'enfance connaît la plus grave crise de son histoire. Le nombre d'enfants à la rue n'a jamais été aussi élevé et la santé mentale des enfants et adolescents s'est grandement dégradée. Il ne les aime pas, il ne les comprend pas. C'est vrai que lui, à 14 ans, alors adolescent, il était déjà maqué avec une femme de 38 ans. Ceci explique aussi pourquoi, après avoir découvert le scandale Betaram et l'implication de son premier ministre Beyrou, il lui est assuré toute sa confiance. Que pourrions-nous espérer d'un président de la République qui soutient un mec qui a couvert des actes pédocriminels, des violences sur enfants et adolescents ? Et puis là, paroxysme de l'outrecuidance, il nous dit qu'il ne faut pas crier. Il devient menaçant après le viol et le meurtre d'une enfant en refusant qu'on parle de manque de moyens quand, dans les faits, la France qu'il dirige depuis bientôt 10 ans compte 2 fois moins de juges que la moyenne européenne, 4 fois moins de procureurs que la moyenne européenne, que 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite faute de moyens et de volonté politique, qu'il faut attendre 6 ans et demi en moyenne entre la première plainte et la fin de la procédure, 6 ans et demi dans le cas de procédure pour viol sur adulte, c'est pire pour les enfants, on le verra, que le budget moyen de la justice en France est 1,5 fois inférieur à la moyenne européenne et que pendant ce temps-là, des enfants sont violés et assassinés et des pédocriminels laissés en liberté. Et lui, il vient nous dire de ne pas crier. Il dit que la précipitation et la démagogie ne sont pas à la hauteur du drame alors que cela fait 10 ans que les associations tentent de l'alerter. Son toupet, sa malhonnêteté, son irrespect, son mépris n'ont décidément aucune borne. Ça devient littéralement obscène. C'est obscène. Que pouvions-nous attendre et espérer d'un mec qui préside un pays plusieurs fois condamné par la Cour européenne des droits de l'homme parce que ses services de police et de justice ont maltraité des victimes de viol ? Que pouvions-nous attendre et espérer d'un mec qui dirige un pays où toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle, toutes les 3 minutes ? Et que depuis 10 ans, il ne fait rien pour que les hommes cessent d'agresser et de violer les enfants et les femmes. Que pouvions-nous attendre et espérer d'un mec qui entretient volontairement un système où pour avoir brûlé une poubelle après un match de foot ou volé des sushis dans un supermarché, on est jugé en 48 heures, mais où quand on viole une enfant de 10 ans, rapport médico-légal évoquant des lésions à l'appui, on n'est jamais convoqué par la police. Qu'espérer d'un mec qui protège plus le mobilier urbain que les enfants ? Qu'attendre et espérer d'un président de la République qui a balayé d'un revers de la main les préconisations de la CIVIS, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a rendu son rapport il y a 3 ans ? Quelle tartufferie ! Je me demande si la prochaine étape, dans leur réaction sordide, ne va pas être d'affirmer qu'ils ne savaient pas qu'en France, le pays qu'ils dirigent depuis 9 ans, 1 Français sur 10 a été victime de violences sexuelles. 10% de la population adulte, presque 7 millions de personnes. Dans la France d'Emmanuel Macron, 160 000 enfants sont victimes d'agressions sexuelles et de viols chaque année. Et ça, ce sont seulement les enfants qui ont osé parler et dénoncer. Le chiffre est sans doute, en fait, bien plus grand. Dans la France d'Emmanuel Macron, il y a 30 000 enfants victimes qui attendent actuellement une date d'audience. Le délai moyen entre les faits et le jugement pour un viol sur mineur est de 7 ans et 3 mois. C'est pas mes chiffres, hein, c'est pas moi qui invente, ce sont les chiffres d'Infostat Justice qui sont parus en novembre 2025. 7 ans et 3 mois. Enfin, l'OFMIM, Office de police spécialisé dans la protection des mineurs, reçoit 493 signalements par jour. Un enfant toutes les 3 minutes. Alors moi, je veux bien la provocation, les leçons de morale, le mépris, le petit ton arrogant et menaçant. Ça fait plus de 9 ans qu'on subit ça. On est habitué, on s'habitue, c'est lassant. Je veux bien aussi qu'il essaye de nous faire passer pour des hystériques. C'est tellement pathétique, ça me passe au-dessus de la tête venant de lui. Je veux bien aussi que Darmanin ne démissionne pas. On attend ça depuis des années en vain. Là aussi, c'est lassant. Mais tout ça, ça ne va pas suffire pour dissimuler leur incompétence, leur manque de volonté politique, leur complicité, du moins leur complaisance avec les pédocriminels, les violeurs, les agresseurs et le sang sur leurs mains. Et nous, on va crier si on veut, on va continuer de crier et de tenter de protéger les enfants et les femmes, de croire et de défendre les victimes parce que nous sommes de sales connes hystériques. Crier pour que la loi intégrale soit votée et appliquée avec 2,6 milliards sur la table. On va continuer comme depuis 10 ans d'exiger que les hommes cessent de violer les enfants et les femmes. Exiger que les hommes cessent de penser que les corps des enfants et des femmes leur appartiennent. Exiger que les hommes cessent de vouloir nous dominer en nous tapant dessus et en nous violant. Et qu'on les éduque et rééduque enfin, qu'on impose les séances éparses, qu'on les multiplie même. Que cette société patriarcale où les hommes se protègent entre eux s'effondre enfin et que le reste de la société sorte de son déni dans lequel elle se tient bien confortablement. Que lorsque 9 fillettes en classe de CM2 à Paris accusent un animateur périscolaire de 47 ans d'agression sexuelle, celui-ci ne soit pas relaxé, comme ce fut le cas ce mardi. Cet homme, dont le tribunal correctionnel de Paris a reconnu les comportements inappropriés, va donc pouvoir tranquillement retravailler auprès d'enfants. Et on nous dira, quand une autre petite fille sera violée et assassinée, qu'il y a eu un dysfonctionnement et que ça ne sert à rien de crier. Marine, on va rester un peu dans le sordide, hein, tant qu'à faire. Désolée. Ah, voilà, il fait chaud et il se passe tellement d'horreurs que j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez entendu parler de Karine Brunet-Jambu ?
Du coup, oui.
Du coup, oui. Cette jeune femme a été violée pendant 2 ans alors qu'elle était une enfant par un ami de ses parents que ses parents hébergeaient, Roland Blaudy. Il était récidiviste puisqu'il avait déjà été condamné en 2007 pour des viols sur sa propre fille et libéré, bien sûr. Alors après les plaintes de Karine, il a été recondamné à 30 ans de réclusion criminelle. C'était en 2018. Et le 12 mai dernier, aux surprises, devinez quoi ? Eh bien, il a bénéficié de la confusion des peines et il est sorti de prison. Alors moi, je suis pas hyper douée en maths, mais 2018 plus 30, on est d'accord qu'on approche les 2048.
Oui. OK, qu'on est en confusion mathématique.
Et on est en 2026.
Oui.
C'est ça. Donc il a bénéficié de 22 ans de réduction de peine et devinez quoi, Marine ? Où a-t-il décidé d'aller vivre ?
À côté de chez sa victime.
À côté de chez sa victime. On se marre, mais en fait, c'est nerveux.
Bah oui.
Il a effectivement décidé d'aller vivre à côté de chez Karine, sa victime, c'est-à-dire à Rennes. Voilà. Donc, nous avons un pédocriminel dans la nature, près de Rennes. Et là encore, on parlera de dysfonctionnement si ce pédocriminel récidive. Alors, puisqu'on est vraiment dans le sordide et l'ignominie, j'ai décidé de lancer un petit jeu du même niveau, bien glauque. Marine, désolée, vous êtes la seule dans ce studio, donc la seule à laquelle je vais poser cette question. À votre avis, depuis le 1er janvier 2026, combien de femmes ont été assassinées du fait de leur genre ?
Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais par esprit de déduction, je me dirais que comme on est en juin, milieu de l'année, on doit être autour des 50-60, peut-être même passer les 60, étant donné qu'on a eu des mois très meurtriers en termes de féminicides.
Eh ben, vous êtes pas loin du compte, Marine, puisqu'au 11 juin, 69 femmes avaient été tuées depuis le début de l'année parce que femmes, plus de 11 femmes par mois, un assassinat tous les deux jours. Alors pour rappel, l'an passé, en 2025, ce sont 170 féminicides qui ont été perpétrés, plus de 14 femmes par mois assassinées par des hommes. Peut-être, allons-nous battre le record de l'an dernier ? Et Emmanuel Macron nous dira alors que ça ne sert à rien de crier. Et alors, du côté du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, on s'attendait ou on s'attendrait à une petite réaction. Ben non, c'est silence radio. Parce que devinez quoi, Marine ? Devinez à quoi Aurore Moraes-Berger était occupée ces derniers temps ?
Je sais pas.
Dis donc, je vous impose des colles aujourd'hui, Marine. Elle était occupée à choisir sa tenue pour aller au Festival de Cannes aux frais du contribuable parce que la situation des femmes en France, ce n'est pas assez glamour et bling bling. Voilà. Je vous propose une première pause musicale. On va écouter Léonie Pernet, Réparer le monde. Réparer le monde sur Canal B dans les héroïnes. Marine, plein d'actu en cette mi-juin. Ça va parler foot, période estivale, puisque l'été, c'est dimanche. Il va faire 40, c'est super. On va parler de la SNCF aussi et des mascus. Et vous commencez avec un événement qui prend toute la place en ce moment. Et ce n'est que le début. C'est la Coupe du monde de football masculin qui a pour conséquence d'augmenter encore la charge mentale des femmes.
Exactement, c'est ce qu'observe Marie Vialaret, qui est présidente de l'association Ta Pensée A et créatrice du compte éponyme sur Instagram. Les hommes, donc, se sentiraient libres d'être démissionnaires de leur rôle de père ou de conjoint pendant les grands événements sportifs. Alors, dans le Huffington Post, Marie Vialaret, elle explique ceci. Un événement comme la Coupe du Monde excuse socialement les hommes. Il ne faut pas leur en vouloir s'ils ne font pas leur part du travail domestique. Face au manque de documentation concernant le lien en fait entre compétition sportive et charge mentale, elle lance un appel à témoignages sur les réseaux sociaux. Résultat, les abonnés qui répondent craignent que les pairs s'inscrivent aux abonnés absents, allant jusqu'à espérer parfois que la France perde rapidement. Le mieux, c'est vraiment de lire les commentaires sur le compte Tapensea. Ils sont sidérants et ils révèlent l'autorisation collective des hommes à se détourner des tâches du foyer sans questionner leur légitimité à le faire et sans même interroger la disponibilité et capacité de leur partenaire féminine à constamment endosser le rôle de variable ajustable. Sur les réseaux sociaux, justement, Marie Vialaret, elle déplore le comportement des hommes qui, sous couvert d'humour, annoncent à leur compagne leur indisponibilité momentanée pour cause de mondial de foot, un phénomène qui rejoint son analyse autour du climat sexiste socialement accepté pendant les grands événements sportifs.
À propos de mondial et d'un... Putain, mais je suis débile. À propos de mondial et d'injustice, Marine, l'Argentine met en place un système qui devrait faire réagir les hommes et qui devrait faire plaisir aux femmes. En tout cas, moi, ça me fait plaisir.
En effet, ça rejoint un petit peu la première actu, puisque l'Argentine a décidé de rappeler aux hommes, principalement, que les enfants passent avant leur passion pour le ballon rond. Ainsi, les parents qui ne s'acquittent pas de la pension alimentaire due à leurs enfants ne pourront pas accéder au stade pendant la Coupe du Monde 2026. Et c'est pas anodin, le quotidien argentin La Nación rapporte que plus de 13 000 personnes, des pères principalement, seraient concernées par ce dispositif déjà mis en place par le pays pour des événements sportifs et culturels. Alors d'habitude, on tape au portefeuille pour faire changer les mentalités, là on tape au foot pour que les hommes mettent la main au portefeuille pour nourrir leurs enfants. Je sens que ça vous inspire, Morgane.
Ça m'inspire quand même que les mecs, ils ont le blé pour prendre leur avion, payer leur billet pour aller au stade, qui coûte une blinde, et ne pas s'occuper de la vie de leurs enfants. C'est hallucinant, je sais pas comment leur cerveau est foutu. C'est voilà, ça me puis la pension alimentaire, les Français, la France devrait bien s'inspirer de la mesure argentine, je trouve.
Complètement, c'est ce que je me suis dit en lisant ça.
Et alors il n'y a pas que les événements sportifs qui font tourner la tête des hommes, malheureusement. Et ça serait trop simple. Il y a aussi la hausse des températures, en cause un point commun, les stéréotypes de genre et sexistes.
Tout à fait. Dehors, les températures sont en hausse et comme si c'était pas suffisamment pénible, le harcèlement de rue augmente également. Alors bien sûr, il n'y a pas de saison pour les outrages sexistes en pleine rue, mais Pauline van der Kamp, qui est fondatrice et présidente de l'application YouMe, constate à l'arrivée des beaux jours une augmentation de 30% des signalements de harcèlement de rue, tout simplement parce qu'on voit plus de morceaux de peau sur le corps des femmes si elles portent des shorts, des débardeurs, des t-shirts, des robes. Et bien sûr, elle rappelle, je cite, « ce n'est évidemment pas leur tenue le problème, mais le regard des hommes qui, à ce moment-là, les voient comme de la marchandise ». Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, 8 femmes sur 10 déclarent avoir été victimes de harcèlement de rue en 2026, selon le syndicat Alliance Police Nationale, qui rapporte des chiffres en hausse par rapport à 2025. Et comme on affronte actuellement un nouvel épisode caniculaire, je profite du micro pour passer le message. Les femmes s'habillent comme elles veulent, parce qu'elles ont chaud, parce qu'elles ont envie de se plaire, parce qu'elles aiment séduire, parce qu'elles ont des croyances religieuses, parce qu'elles ont la flemme, parce qu'elles s'en foutent, parce qu'elles ont une soirée. Peu importe en fait les raisons, laissez-les tranquilles du début du printemps à la fin de l'hiver.
C'est en effet un fléau, vous faites bien de le rappeler Marine. Et en parlant de fléau, celui du masculinisme est en constante évolution et la menace terroriste est désormais associée au mouvement masculiniste.
Oui, c'est même une alerte qui vient directement de la DGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et qui vient renforcer la gravité des faits qui se multiplient ces dernières années en France. Là où le bât blesse, c'est que la DGSI, et donc tous les médias qui reprennent l'info sans analyser de manière globale le fléau, pointent particulièrement la mouvance incel, donc les volontaires, soi-disant involontaires, et le rajeunissement des profils radicaux. radicalisés. Et cela représente bel et bien une réalité. Sur les réseaux sociaux, les adolescents ciblés sont de plus en plus jeunes, en moyenne autour de 14-15 ans, là où ils avaient plutôt entre 18 et 25 ans ces dernières années. Les projets appréhendés par les services de la sécurité intérieure y sont aussi de plus en plus violents et la DGSI rapporte que cette mouvance représente désormais 10 à 20% des dossiers de terrorisme liés à l'ultra-droite en France. De son côté, Stéphanie Lamy, autrice de La terreur masculiniste, alerte sur les dangers d'une réduction du mouvement aux jeunes et aux incels. Elle rappelle que toutes les tranches d'âge sont concernées et que les masculinistes se déclinent en plusieurs branches. Elle dit, je la cite, « Le terrorisme masculiniste est ainsi ramené au seul lookiste, incel, aux jeunes et au numérique. Or, cette réduction est précisément l'un des principaux angles morts, au sens propre létal, des politiques publiques françaises. Pendant ce temps, les courants des pères séparés, 2 féminicides cette année, les MGTOW, 1 féminicide en 2020, les milieux traditionnels pourtant impliqués dans des violences, des campagnes de harcèlement ou des passages à l'acte au nom du suprémacisme masculin disparaissent du récit. » Fin de la citation. Un bon point donc pour la DGSI qui fait enfin la lumière médiatique sur le lien entre masculinisme et terrorisme, mais plusieurs mauvais points sur une information réduite et biaisée de la menace. Pendant ce temps-là, des femmes meurent, comme le souligne Stéphanie Lamy. Et du coup, c'est à moi maintenant de vous poser la question, Morgane, justement, est-ce que vous percevez le traitement médiatique autour des masculinismes ?
Bah, pas très bien, et vous venez de la citer, Stéphanie Lamy. Je pense qu'elle devrait être plus invitée sur les plateaux des médias mainstream, que ça soit radio, télévision, à des heures d'écoute importantes en matinale et le soir vers 19h pour que elle puisse, parce qu'elle a vraiment étudié le sujet des masculinistes et c'est très intéressant ce qu'elle dit. Après, effectivement, c'est le retour de bâton terrible. Et je suis pas sûre que tout le monde en prenne vraiment conscience de la gravité de ça. Mais effectivement, j'ai entendu notre ministre de l'Intérieur, Lolo Nunez, qui parlait de terrorisme concernant les masculinistes.
Au moins, ils reprennent ce terme.
Oui, voilà, c'est devenu un peu... Mais il y a effectivement un amalgame et c'est bien dommage. Oui. Invitez Stéphanie Lamy sur vos plateaux.
Exactement.
Voilà, on le fera peut-être, nous, d'ailleurs. Hein,
ce serait bien.
C'est une bonne idée de charité bien ordonnée et commence par soi-même. N'importe quoi, si on invoque maintenant la religion. Allez, un petit son pour se détendre ou pas. Like a saint, but you're deeply rotten. You make me sick, like really sick. Give me the ick, this one was tick. Try to forget, but not forgive. No longer put up with that shit. Try to pass off as just naive. But we all know you're just a sleaze. Tu veux te faire bien beau, prendre de la masse, let's go. Besoin de protéines, bah mange ton seum pélo. Tu veux te faire bien beau, prendre de la masse. Bouffe ton seum, frérot. Maddy Street, problème sur Canal B dans les héroïnes. Marine, on poursuit avec le reste de vos actus. On a beaucoup parlé de la hausse du harcèlement de rue, de la charge mentale, des violences masculinistes. Et si on abordait maintenant une hausse positive, celle du nombre de femmes dans les secteurs encore très masculins?
Ça me va, parce que s'il reste encore malheureusement de nombreux bastions du masculin, le secteur des transports tente de se féminiser. Et ça tombe bien, puisque c'est un métier qui recrute avec 30 000 postes à pourvoir d'ici 2030. L'enjeu, c'est d'inciter les femmes à s'orienter dans un domaine qui n'en compte actuellement que 20% dans ses effectifs. Ainsi, la SNCF, elle tente de recentrer le sujet en disant il est indispensable pour attirer les filles vers les métiers du rail de dépasser les stéréotypes de genre intégrés dès le plus jeune âge. Parce que les métiers techniques, la conduite et la maintenance sont encore considérés comme des métiers d'hommes, requérant force physique, goût du risque et de l'aventure, maîtrise des technologies, sens des responsabilités et capacité à travailler en extérieur. En 2026, il faut encore déconstruire ce type de préjugés et dire et redire aux filles et aux garçons, bien évidemment, que les femmes sont tout aussi compétentes que les hommes. Pour dégenrer l'orientation scolaire et professionnelle, tout le monde doit intégrer que les filles ont leur place partout, dans n'importe quel secteur et dans n'importe quel métier.
Et justement, à ce propos, Marine, à Rennes 2, début juillet, on s'interroge sur où en sont les droits des femmes et des minorités de genre.
Oui, vaste question qui peut aussi sembler théorique, mais qui mérite quand même d'être posée pour bien positionner les curseurs des droits des femmes et des minorités de genre. Parce qu'on le sait, ceux-ci ne progressent jamais de manière linéaire et surtout, les droits conquis sont constamment menacés et remis en question, d'où la nécessité d'une vigilance accrue et constante. Et c'est là l'ambition de l'Académie d'été du DIU, étude sur le genre de Rennes 2, qui est organisée le 2 juillet prochain. L'idée, c'est de comprendre où nous en sommes, d'identifier les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les droits et les luttes, et de réfléchir ensemble aux leviers d'action collective pour les défendre, les protéger et les renforcer. Parce qu'on l'a vu, la menace terroriste masculiniste n'est pas anodine, elle est croissante et réelle, et puis parce qu'il n'y a pas que les masculinistes, mais aussi le sexisme ambiant, les VSS, etc. Vous l'avez rappelé aussi en début d'émission, Morgane, avec tout ce que vous avez dit sur le manque de volonté politique et en plus les attaques qui sont faites aux militantes. Et comme vient de l'exprimer Judith Godrèche dans Libération, le garde des Sceaux ne protège ni les femmes ni les enfants. Les militantes féministes, elles, sont les véritables forces vives de l'égalité et de l'inclusion. Alors oui, en 2026, on est des sales connes, on l'assume et même on le revendique.
Je dirais même mieux, Marine, nous sommes des sales connes hystériques et on crie quand on veut, si on veut.
Effectivement. Et où on veut.
Et où on veut aussi. Alors on va, on va passer à un autre sujet. Ça concerne toujours les femmes et c'est toujours dramatique. Ça s'est passé fin mai. Les talibans ont publié un décret pour un nouveau code sur la séparation conjugale. Mais en fait, derrière ça, il y a une reconnaissance implicite du mariage des enfants. Cette loi, elle vient grossir la liste déjà trop longue des restrictions et interdictions faites aux Afghanes. Elles sont privées d'éducation, d'accès aux parcs publics, privées d'emploi, de sport et sont donc aujourd'hui victimes dès l'enfance de mariages forcés. Alors, je reviens à Rennes. Marine, est-ce que vous connaissez l'ENS, École Normale Supérieure?
Eh bien, que de nom, vous imaginez bien que je ne le connais pas de l'intérieur.
Ouais, vous aviez déjà fini vos études quand ça s'est installé à Rennes, sinon vous auriez été reçu. Eh bien, je vous le souhaite pas. En fait, je vous aurais jamais souhaité d'entrer à l'ENS parce que figurez-vous que le 15 mai dernier, Mediapart révélait un rapport d'enquête sur l'ENS Rennes, École Normale Supérieure de Rennes, où des pratiques et remarques sexistes et pédophiles sont dénoncés. La mission de l'Inspection Générale de l'Éducation et de la Recherche, qui a débarqué sur place, a recueilli 70 témoignages et confirmé, je cite, les pratiques délétères dans la vie étudiante et les propos et comportements déplacés de deux enseignants-chercheurs. Alors, ces derniers seraient visés par une enquête disciplinaire. Les membres de cette inspection dénoncent également l'aveuglement de la présidence de l'ENS sur le sexisme ordinaire qui sévit dans l'établissement. Ainsi, à titre d'exemple, s'étant procuré un parolier de textes de chansons qui sont distribués aux élèves quand il y a une sortie sportive, un week-end d'intégration ou encore un séjour au ski, ben l'inspection s'est scandalisée d'y trouver des propos, je cite encore, « somme de vulgarité et d'obscénité alliant réification et avilissement des femmes et encore, ou encore pédophilie ». Et les faits, en fait, ils sont pas nouveaux, puisque l'enquête administrative accablante, elle est restée confidentielle depuis 2022. Donc ça fait 4 ans en fait qu'à l'école normale supérieure de Rennes, il y a ce genre d'agissement, qu'il y a deux enseignants qui ont des propos, des attitudes inappropriées, voire pire, et que voilà, rien ne s'est passé pendant... Enfin, il y a eu une inspection pendant ces 4 ans, mais on ne l'a pas su. Alors allez, plus joyeux pour terminer ces actus, à la rubrique condamnation, ma chère Marine, on se réjouit, mais vraiment intensément, d'avoir appris que Dora Mouto, TERF, c'est-à-dire transphobe notoire, a été condamnée pour injure publique contre une élue. Elle avait en effet tenu des propos inadmissibles en 2022 sur un plateau télé face à Marico, qui est la première maire transgenre de France. Bien sûr, elle a fait appel. Espérons qu'elle prenne plus cher en appel. Voilà. Allez, une nouvelle pause musicale dans les héroïnes sur Canal B. On va écouter Boy du trio Hildegarde.
Qu'on se verra encore quelques fois et puis on se verra plus. Et un jour, je mettrai ta photo dans une boîte à chaussures que je rangerai sous mon lit pour oublier ton visage. Et un jour, dans la rue, je croiserai un gars, je me dirai putain, il me rappelle quelqu'un. Et ben ce sera toi, et ça me fera bader. Ça me rappellera comment au début, je pensais jamais t'oublier. Je pensais jamais t'oublier, je pensais jamais t'oublier, non. Ce qui se passera, c'est qu'on se verra encore quelques fois, et puis on se verra plus. Et un jour, je mettrai ta photo dans une boîte à chaussures que je rangerai sous mon lit pour oublier ton visage. Et un jour, dans la rue, je croiserai un gars, je me dirai putain, il me rappelle quelqu'un. Et ben ce sera toi, et ça me fera bader. Ça me rappellera comment au début, je pensais jamais t'oublier. Je pensais jamais t'oublier, je pensais jamais t'oublier, non. Ce qui se passera, c'est qu'on se verra encore quelques fois, et puis on se verra plus. Et un jour, je mettrai ta photo dans une boîte à chaussures que je rangerai sous mon lit pour oublier ton visage. Et un jour, dans la rue, je croiserai un gars, je me dirai putain, il me rappelle quelqu'un. Et ben ce sera toi, et ça me fera bader. Ça me rappellera comment au début, je pensais jamais t'oublier. Je pensais jamais t'oublier, je pensais jamais t'oublier. Et pourtant tu vois, j'ai mis ta photo dans une boîte à chaussures que j'ai rangée sous mon lit et j'ai oublié ton visage.
Boy du trio Hildegarde sur Canal B dans les héroïnes. Marine, on va parler santé des femmes à présent et plus particulièrement d'endométriose.
Il y a quelques semaines, je me suis rendue aux urgences gynécologiques sur recommandation écrite de ma doctoresse pour une douleur aiguë dans le bas-ventre. Je suis prise en charge par une interne de l'hôpital Sud et sa stagiaire. Je décris mon problème situé au niveau de l'ovaire gauche, j'explique que je suis atteinte d'endométriose et je précise que je suis au stade ovulatoire, période qui me vaut régulièrement des pointes douloureuses, mais pas à ce niveau-là. Top départ pour l'auscultation, bien inconfortablement installé, le cul au bord du fauteuil et les pieds dans les étriers. Frottis, toucher vaginal, puis échographie externe d'abord, puis par sonde endovaginale. C'est là que ça se gâte. Je vous épargne le temps très long de recherche infructueuse de mon ovaire gauche, mais en gros, la stagiaire trouve pas, l'interne non plus, et alors que la cavalerie arrive, la source de mes douleurs est toujours portée disparue. La nouvelle interne se résout à appeler une troisième interne, plus expérimentée soi-disant, en précisant « vous allez voir, elle va trouver tout de suite, ça va être l'humiliation pour moi ». Et là, la remarque, elle me scotche. Moi, la vulvalaire, une sonde dans le vagin, trois personnes qui galèrent à localiser mon ovaire et une quatrième qui arrive à la rescousse, et c'est elle qui se sent humiliée. Bref, l'examen se poursuit, la sauveuse se saisit de l'appareil et bourrine là où ça fait mal, constate un liquide autour de l'ovaire, remballe la sonde, balance un pardon de vous avoir fait mal qui sonne faux, et lâche en partant, c'est juste une ovulation douloureuse, ça arrive, c'est rien. Et je me passe en boucle sa phrase, c'est juste une ovulation douloureuse, ça arrive, c'est rien. Je suis trop sensible à la douleur et j'ai certainement pris la place de quelqu'une qui en avait réellement besoin. À ce moment-là, j'ai hyper honte. Je reste silencieuse jusqu'à la sortie de l'hôpital et là, les questions m'assaillent. Ressentir l'ovulation, ok, mais est-ce bien normal d'avoir aussi mal ? Est-ce normal qu'elle ne m'ait posé aucune question sur l'endométriose que j'ai ? Et est-ce qu'il y a un lien, en fait, avec l'endométriose ? Et puis je me demande, est-ce que c'est le nouveau, c'est des règles douloureuses, ça arrive, c'est rien ? Moi qui pensais que la médiatisation autour des menstruations, de l'endométriose et du long combat des concernés avait modifié les pratiques gynécologiques, je déchantais. Parce que cette phrase prononcée à toute vitesse, elle a rien d'anodin. Elle nous renvoie à notre supposée capacité naturelle à supporter, à endurer, voire à subir sans se plaindre, ou en tout cas le moins possible. C'est une phrase qui nous pousse à douter de nous-mêmes plutôt qu'à interroger la médecine. Alors cette histoire, si je la partage avec vous, c'est pas pour pleurer sur mon sort, c'est pour la faire résonner et l'inscrire dans une réalité collective, celle d'un retard considérable dans la prise en compte de la santé des femmes. Depuis longtemps, les corps féminins sont les grands absents de la recherche médicale parce qu'on considère qu'ils sont le prolongement des corps masculins. Alors on a oublié, écarté, mis de côté les spécificités du corps des femmes. Les douleurs, elles sont minimisées, banalisées et souvent psychologisées, c'est-à-dire associées aux émotions. Et les enjeux, ils sont nombreux, documentés et chiffrés. Une des données les plus flagrantes, c'est celle des décès féminins, 35% liés aux maladies cardiovasculaires, des morts qualifiées d'évitables par Christelle Nyango-Timo, professeure d'anatomie et chirurgienne gynéco au CHU de Rennes. Le journal du CNRS, justement, il parle d'un sous-diagnostic des maladies cardiovasculaires pour les femmes en France, en cause les symptômes qui s'expriment différemment de ceux des hommes. L'impact, il est injuste parce que la prise en charge, en fait, elle est retardée de 30 minutes en moyenne pour les femmes. Résultat, 9,6% des femmes victimes d'un infarctus décèdent à l'hôpital contre 3,9% des hommes. Sans oublier les biais des professionnels de la santé en fonction du genre, de l'orientation sexuelle et affective, de l'identité de genre, du handicap, de la classe sociale ou encore de l'origine réelle ou supposée des patientes. Je fais référence notamment au fameux syndrome méditerranéen qui est, je le rappelle, un stéréotype raciste selon lequel les personnes d'origine étrangère, principalement les femmes noires et les femmes arabes, auraient tendance à exagérer ou à simuler leurs douleurs et leurs symptômes. À ce propos, je vous invite à consulter le rapport très détaillé et stupéfiant Santé pour tous, publié cette année par l'association Tant que je serai noire. Il y a d'autres chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 51% des femmes estiment que leurs symptômes ont déjà été minimisés ou non pris au sérieux parce qu'elles sont des femmes. 63% des femmes s'estiment insuffisamment informées sur leur santé en matière de prévention, dépistage, suivi, etc. Moins de 4% des investissements en santé numérique concernent la santé des femmes et il faut encore en moyenne entre 7 et 12 ans pour un diagnostic d'endométriose. C'est sans appel. Désintérêt de la recherche, manque de financement, réduction du corps des femmes au sein et à l'appareil de reproduction, ce qui a été qualifié dans les années 80 de médecine bikini, sans oublier les essais cliniques et thérapeutiques réalisés sur la base du corps des hommes qui crée des médicaments aux effets secondaires méconnus et parfois fatals sur les femmes, coucou le Mediator, pour ne citer que lui. Alors voilà, en 2026, on en est encore là, en santé aussi, le masculin l'emporte sur le féminin. Ah, on voit bien, le problème, il est ancien et profond et on comprend que face à un tel retard médical, scientifique et politique, disons-le, il n'y a pas de remède miraculeux. Encore une fois, il y a la combativité et l'énergie militante pour dynamiter le précaré de la pensée patriarcale. Partout en France, ça s'organise pour faire évoluer les mentalités. À Rennes, cette volonté de transformer durablement le système, elle prend la forme d'un Living Lab Santé des Femmes, le tout premier en Europe. Sur une centaine de Living Labs dédiés à la santé, aucun n'était spécifique à celle des femmes et c'est désormais chose faite sur notre territoire. Il a été lancé en novembre 2025 et inauguré officiellement le 28 mai dernier en lien avec la Journée internationale d'action pour la santé des femmes. Et ce dispositif, en fait, il part d'un constat fort. On ne peut pas penser, construire et organiser la santé des femmes sans les femmes elles-mêmes. La volonté de Christelle Niango-Timo et d'Ophélie Carta, donc les fondatrices et co-directrices, elle est puissante. Réunir les patientes, les citoyennes et citoyens, les professionnels de la santé, les spécialistes de la recherche, les associations et les institutions. Pour les mettre en dialogue, mais aussi en réseau, en collaboration, en co-construction des projets soutenus par le Living Lab Santé des Femmes. Pour ensemble identifier les besoins, mais aussi cartographier les acteurs et actrices du territoire à l'échelle de la région bretonne, faire émerger des solutions innovantes et adaptées aux concernés et accompagner des projets capables d'améliorer leur quotidien, du diagnostic au parcours de soins en passant par la prévention et la recherche. Et la force du Living Lab Santé des Femmes, c'est pas uniquement de partager et diffuser des connaissances, c'est de reconnaître et de valoriser l'expertise des patientes inhérentes à leur vécu et de la mêler à la rigueur scientifique et à la pratique médicale. C'est un levier majeur en fait pour transformer notre système de santé. Nos expériences individuelles, elles sont pas uniquement des récits personnels, elles sont des savoirs, des apports essentiel pour comprendre et modifier le système de santé parce que parler de soi, c'est parler de nous, de nos vécus, de nos doutes, de nos silences et de nos douleurs, mais aussi de nos espoirs, de nos connaissances et de notre capacité collective à agir et transformer la société en profondeur pour que toutes les femmes franchissent la porte des urgences d'un cabinet médical ou autre avec la garantie d'être écoutées, accompagnées, prises en charge et la certitude que la douleur traduit une parole du corps qui mérite d'être entendue et non d'être balayée et réduite à l'état de rien. Les femmes ne sont pas rien. Leurs corps ne sont pas rien, ils existent, ils vivent, ils s'expriment. Il faut les voir et il faut les entendre, c'est une urgence vitale.
Merci Marine, et je vous recommande bien sûr la lecture de Yeg.
Exactement.
Qu'on retrouve sur yegmag.fr. J'imagine que vous en parlez prochainement.
On va en parler prochainement, et sans faire de petits spoilers alertes, ce sera sans doute sous la forme d'une vidéo, parce qu'on passe aussi à la vidéo.
Génial. Ben voilà, donc vous allez retrouver ça sur yegmag.fr. Je voulais aussi vous conseiller le livre, je l'ai déjà fait, hein, je vous ai déjà parlé de ce livre. C'est le livre des journalistes Solène Lehen et Marie-Morgane Lemuel, Les négligés, enquête au cœur du business de la santé des femmes. C'est chez HarperCollins France, et dont le point de départ, justement, est l'endométriose, parce que l'une de ces journalistes en souffre. Il fallait terminer cette émission par une info importante, vitale et joyeuse. C'est la 31e marche des fiertés rennaises qui se déroule demain, samedi 20 juin. Alors, rendez-vous Esplanade Charles de Gaulle dès 11h pour découvrir le village associatif et de santé qui se tiendra jusqu'à 18h30. De 11h à 18h30, Esplanade Charles de Gaulle. Vous pouvez venir vous informer, échanger, et à partir de 13h, il y aura les prises de parole avant que la marche ne se mette en route à 14h. À partir de 18h30, c'est l'After Pride dans les bars, place du Champ Jacquet. Et à 20h, c'est le Nose Pride avec un drag show, et un DJ set. C'est Salle de la Cité. Et là, on vous conseille vivement de réserver votre place. Je vous mettrai bien sûr le lien sur le blog des héroïnes sur le site de Canal B. Alors, tous ces événements autour de la 31e marche des fiertés rennaises, c'est organisé par ISKIS, Centre LGBTQIA+, de Rennes, le Planning Familial 35, le Cercle LGBTI+, de Rennes 2, West Trans, SOS Homophobie, Queer Poc Braise, l'Union Syndicale Solidaire 35, AIDS, DJ Arc-en-Ciel, je pense que je prononce bien, Femmes entre elles. Alors, avec un mot d'ordre cette année, face aux violences, queer, multidiscriminés, unissons-nous, parce que l'une des revendications de cette marche est l'égalité réelle des droits et la fin des discriminations et des violences à l'encontre des minorités de genre, qui malheureusement ne cessent d'augmenter chaque année. Encore récemment à Metz, le jeune Noam, 19 ans, a été lynché, insulté, assassiné parce que gay. Je pense aussi à Ewan, jeune influenceur marseillais, violemment agressé parce qu'homosexuel, agressé dans un lieu public et filmé. Voilà, là encore, le manque de volonté politique est flagrant. Vous pourrez écouter l'interview, l'intégralité de l'interview d'Emma Guiguin. Emma, elle est présidente d'ISKIS, et mes collègues de 3 en 1 l'ont reçue mercredi, et c'est en ligne, en podcast sur le site de Canal B. C'était mercredi, vous pouvez aller écouter ça. Les héroïnes, ma chère Marine, c'est terminé pour aujourd'hui, mais aussi pour la saison. Voilà, on va s'arrêter là et on va se retrouver en septembre, octobre. Vous serez là, Marine ?
Oui, il fera moins chaud, on sera là.
Ouais, peut-être pas qu'il fera moins chaud. Hein. Oh, on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas vers quoi on part. D'ici là, moi, je vous donne rendez-vous les jeudis du mois de juillet dans De Boule Vanille, qui est l'émission estivale de Canal B pour des rediffs féministes et des contenus inédits. On va se quitter en musique. On va d'abord écouter Violeur de Petra Pied-de-Biche, qui sera suivie de Michel Arnaud, Ne vous mariez pas les filles. Et si on a le temps, on écoutera Bad Bad Bird, Toi et moi tout l'été.
Super sympa, cultivé, un art, tout ça, tout le monde m'aime bien, et y'a de quoi. Je suis quelqu'un de bien, tout le monde c'est ça. Je suis quelqu'un de bien, tout le monde c'est ça. Cette nuit-là, elle était là, dans le lit d'à côté, autant dire dans le mien, ma queue s'est redressée. J'en avais envie, je me suis servi, j'en avais envie, je me suis servi, j'en avais envie, je me suis servi, j'en avais envie, je me suis servi. Violeur, ordure, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent. Et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer. Politique, lutte des classes, actualité. Violeur, ordure, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent. Et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer, comme si de rien n'était. Alors elle s'est tue et j'ai pu la baiser. Peut-être qu'elle n'était pas d'accord tout d'abord,
mais l'appétit vient en mangeant, c'est ce qu'on dit tout le temps.
Et puis quand même c'est bien connu, cette fille là elle aime le cul. Et puis quand même c'est bien connu, ce type là il aime le cul. Et puis quand même c'est bien connu, cet enfant là aime le cul. Et puis quand même c'est bien connu, tout le monde aime le cul. Ben oui. Violeur, pourriture, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent. Et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer. Jardinage, cuisine, cinéma expérimental. Violeur, pourriture, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent. Et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était.
Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre, se gratter les tifs et regarder ses pieds l'air pensif? Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez pucelle chez votre papa. Devenez serveuse chez un bougna, élevez des singes, élevez des chats. Levez la patte à l'opéra, vendez des boîtes de chocolat. Prenez le voile, vous le prenez pas. Dansez à poil pour les gagas. Soyez radeuse, avenue du bois. Mais ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant sur la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils nous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils nous torturent. Avez-vous vu à votre bras ce maigrichon à face de rat friser ses trois poils de moustache et se redresser l'air bravache? Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia. Changez d'amant quatre fois par mois. Prenez la braise et gardez-la. Cachez la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer de bons petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. À la belle vie que ça sera. Si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas, si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas.